Europe Soir, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Retour des débats d'Europe Soir dans un instant, mais place au journal d'abord avec Raphaël Delvolvé. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Il est 19h, très bon début de soirée sur Europe.
Le parti Les Républicains opte pour un congrès fermé pour désigner son candidat à la présidentielle. Les adhérents préfèrent cette option à une primaire ouverte. Le candidat doit être désigné avant Noël.
Dernier jour de campagne en Allemagne. Avant les législatives de demain, les candidats favoris à la succession d'Angela Merkel ont tenu leur dernier meeting. Ça s'annonce très serré entre le conservateur Armin Laschet et le sociodémocrate Olaf Scholz.
Les consommateurs de crack évacués du quartier parisien de Riquet. Mais le problème n'est pas réglé, il est seulement déplacé. Caroline Baudry en a parlé avec les nouveaux riverains de la Porte de la Villette. Ils sont en colère, vous l'entendrez.
Et puis, sans oublier le sport, Calvert de Saint-Etienne continue en foot avec une nouvelle défaite en Ligue 1 ce soir. Du côté du temps, Valérie Darmon.
Eh bien, des orages forts sur la façade est et le sud. Hérault, Gare, Ardèche et Drôme sont toujours en alerte orange. Forte pluie et orage. L'ouest est à l'amélioration, plus sec. Et entre les deux, c'est-à-dire entre Paris et Clermont-Ferrand, le ciel qui sera plus variable.
Merci Valérie, météo complète tout à l'heure en fin de journal. C'est donc la fin d'interminables discussions au sein du parti Les Républicains. Les militants décident d'un congrès fermé pour désigner le candidat LR à la présidentielle.
80 000 adhérents devaient se prononcer sur le mode de désignation. Seule une partie d'entre eux, la moitié, a voté et a donc rejeté une primaire ouverte. Alexandre Chauveau, vous êtes en direct du siège parisien d'LR. Le chef du parti, Christian Jacob, a annoncé les résultats il y a moins d'une demi-heure maintenant.
Oui, exactement. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise puisque l'enquête IFOP pour les Républicains publiée cette semaine avait déjà révélé que cette option avait la préférence des adhérents. Mais le vote est donc entériné. Place désormais à la campagne entre les différents candidats. Tous devront réunir 250 parrainages auprès des LR et se soumettre au vote des adhérents, y compris Xavier Bertrand qui devrait, selon toute vraisemblance, accepter cette solution. Alors, on ne connaît pas encore l'organisation exacte, mais les statuts du parti prévoient une élection à deux tours et un choix définitif prévu le 4 décembre prochain. D'ici là, les différents candidats pourraient s'affronter au cours de débats télévisés. C'est une question qu'on se posera, explique Christian Jacob, le président des Républicains, qui a également répondu à de nombreuses questions sur la participation potentielle d'Éric Zemmour à cette primaire. Il est sur une ligne qui n'est pas la nôtre, explique-t-il, tentant de clore malgré lui une polémique qui devrait continuer d'alimenter les débats.
Alexandre Chauveau en direct du siège parisien du parti Les Républicains.
Dans le même temps, à gauche, Arnaud Montebourg était en meeting à Frangy-en-Bresse.
Oui, la Saône-et-Loire, son fief électoral où il est venu lancer sa remontada de la France. Un meeting fondateur de sa campagne présidentielle. On le rappelle, l'ancien ministre de François Hollande se présente seul, sans le Parti Socialiste. Et c'est bien à la gauche qu'il s'adresse.
Peuple de gauche, maintenant je m'adresse à toi. Peuple de gauche, toi l'orphelin, toi qui es perdu, toi qui es sans voix, mais qui aussi sans reproche, lève-toi, redresse-toi, donnons-nous la main, avançons ensemble vers la France, retrouvons le chemin du pays pour écrire à nouveau le futur. Prends ton audace à deux mains, peuple de gauche, rejoins-moi, nous pouvons l'emporter ensemble, unissons-nous aux Français, avançons pour faire chuter les fatalités de l'histoire. Et comme le disait Churchill, donnons-lui un coup d'épaule. Vive la remontada de la France. Vive la République. Et vive la France.
L'ancien ministre Arnaud Montebourg en meeting cet après-midi à Frangy-en-Bresse.
Et on en reparle dans les débats d'Europe Soir juste après votre journal, Raphaël.
De leur côté, les écologistes, les Verts, désignent eux leurs candidats dans les prochains jours. Le deuxième tour a débuté aujourd'hui. 122 000 inscrits choisissent en ligne qui de Yannick Jadot ou de Sandrine Rousseau représentera les écolos à la présidentielle. Résultat annoncé mardi.
Gros suspense en Allemagne aussi. Demain sont les élections législatives, celles qui désigneront le successeur d'Angela Merkel.
La chancelière à la tête du pays depuis 16 ans a participé à un dernier meeting aujourd'hui à Aix-la-Chapelle pour soutenir son dauphin Armin Laschet. Candidat de la CDU-CSU en difficulté dans les sondages, le conservateur est au coude à coude avec le social-démocrate Olaf Scholz. Hélène Kohl, vous êtes notre correspondante à Berlin. Dans les sondages, c'est serré, incertain, d'autant qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte.
Oui, avec 40% d'indécis encore au milieu de cette semaine et 40% des électeurs qui, eux, ont choisi de voter par correspondance à l'avance et qui ne sont pas pris en compte dans les sondages. Autant vous dire que personne, mais vraiment personne ici n'est capable de prédire le rapport de force qui sortira des urnes demain soir. Donc les candidats n'ont pas le choix, il faut se battre jusqu'au bout. Il y a eu encore des meetings aujourd'hui, par exemple les libéraux à Cologne et Düsseldorf, même si les têtes de liste ont plutôt opté pour un repli stratégique dans leur circonscription, au contact des électeurs qui vont directement les porter au Bundestag. Potsdam pour Olaf Scholz du SPD et Annalena Baerbock des Verts, candidat au même endroit, et Aix-la-Chapelle, non loin de la frontière belge, pour Armin Laschet. C'est sa ville natale. D'après son biographe, il serait même un lointain descendant de Charlemagne. Et ce matin, faute d'empereur, il a quand même pu compter sur le soutien précieux de la chancelière qui a fait avec lui une déambulation dans le centre-ville et elle a fait un petit discours. Angela Merkel ne voulait pas s'engager autant dans cette campagne, mais la situation est tellement serrée, tellement inédite, qu'elle a fait plusieurs meetings avec Laschet, qu'elle présente comme son dauphin naturel, même si, il faut bien le dire, dans le style, c'est plutôt Olaf Scholz du SPD qui lui ressemble.
Merci Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin. L'actualité européenne, c'est aussi ce bain de foule que s'offre Carles Puigdemont aujourd'hui en Sardaigne.
L'ancien président de Catalogne, libéré hier après son arrestation jeudi, il est allé rencontrer la communauté catalane de Sardaigne à Alghero et il pourrait prochainement quitter l'Italie car il y est autorisé. Carles Puigdemont s'est cependant engagé à revenir le 4 octobre prochain pour une audience sur son extradition vers l'Espagne. Madrid, vous le savez, le poursuit pour sédition, notamment pour avoir organisé un référendum d'indépendance en 2017.
Et justement, l'Union européenne doit faire connaître son utilité. Le Premier ministre défendait aujourd'hui à Toulouse la construction européenne.
Jean Castex a répondu aux observations, aux doutes aussi d'un panel de 56 citoyens. Rappelons que la France prend la tête du Conseil de l'Union européenne le 1er janvier prochain pour une durée de 6 mois. Un très probable hommage aux Invalides sera rendu au caporal-chef Maxime Blasco, 52e soldat français à mourir au combat au Mali. C'était hier vers Gossy, près de la frontière avec le Burkina Faso. Vive émotion à l'Élysée, le président Emmanuel Macron lui avait remis une médaille. Cette nouvelle perte intervient également au moment où la France entame la transformation de la mission Barkhane, appelée à se réduire ces prochains mois. Mission dont les derniers jours s'annoncent difficiles. Éclairage du général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies.
Militairement, sur le terrain, il n'y a pas de changement. Les soldats maliens combattent, les soldats nigériens combattent, les soldats burkinabés combattent. Mais le problème, c'est effectivement la négociation à Bamako, parce que Bamako est en train, après le coup d'État, d'envisager un accord avec une compagnie russe qui loue ses soldats, qui loue ses services, c'est Wagner, qu'il a déjà fait en République centrafricaine, et ce qui poserait naturellement un problème important, parce qu'entre des soldats réguliers comme les soldats français, européens ou africains et des mercenaires, il n'y a pas de place possible. C'est tout à fait impossible. Donc la négociation est difficile actuellement avec Bamako, vous avez raison.
Explication du général Dominique Trinquant au micro de Thierry Dagiral. Réaction ce soir du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, dément toute implication de la Russie. Ce sont, selon lui, des sociétés privées qui ont approché le gouvernement malien. Les antipasses sanitaires, de nouveau mobilisés aujourd'hui, 11e samedi de suite, avec 185 manifestations dans toute la France. Pas de chiffres du ministère de l'Intérieur pour l'instant. Comme la semaine dernière, la police attendait entre 60 et 80 000 personnes.
Et dans le même temps, la situation sanitaire en Guyane inquiète avec un record de décès atteint ces 7 derniers jours, 21 morts du Covid-19. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, visitait l'hôpital de Cayenne cet après-midi. En Guyane, seuls 30% de la population de plus de 12 ans a reçu ces 2 doses de vaccin.
Autre problème de santé publique présent dans l'actualité cette semaine, le cas des consommateurs de crack dans le nord de Paris. Les toxicomanes du quartier de Riquet ont été évacués hier.
Évacués pas très loin, à la porte de la Villette, à 2 km de là en fait. Le problème est déplacé car ce sont maintenant les nouveaux riverains qui se plaignent. Bonsoir Caroline Baudry.
Bonsoir.
Vous avez rencontré les habitants d'Aubervilliers de Pantin. Ils sont en colère, Caroline.
Oui, et ils accélèrent le pas quand ils passent devant ce jardin niché sous le périphérique parisien, occupé désormais par une centaine de toxicomanes. Certains déambulent sous l'emprise du crack, interpellent les passants. C'est là que j'ai croisé Camille, qui vit à 400 mètres de là.
C'est juste déplacer le problème, en fait.
Désolé, monsieur, on n'a rien du tout.
Il y a du trafic en tout genre à quatre chemins et ça va ne faire que empirer la situation. Et ça a été vraiment l'étonnement. Ça s'est fait très rapidement au dernier moment et tout le monde a été surpris et choqué du geste.
Ce geste, c'est l'arrivée surprise du campement et la construction de ce mur. Hier, sur ordre de la préfecture de police, il bouche un petit tunnel qui relie Paris et Pantin pour éviter en vain que les drogués ne se dispersent. Ni les élus locaux, ni la population de Seine-Saint-Denis n'a été concertée. Pour Dominique, porte-parole d'un collectif de riverains, c'est un mépris envers le département le plus pauvre de France métropolitaine.
Ce que l'on regrette, c'est de rajouter de la misère à la misère. C'est de rajouter de l'insécurité à l'insécurité. Et ce que l'on regrette aussi, c'est que l'on ne prenne pas en charge ces personnes qui sont des personnes malades, addictes à une drogue des plus dures qui soient. Notre quartier est un quartier riche de diversité. Pourquoi on nous méprise ? Pourquoi on ne nous donne pas les moyens ?
Une dizaine de collectifs du nord-est parisien appellent à manifester samedi prochain. Ils demandent une mise à l'abri pérenne de ces toxicomanes pour en finir avec cette énième colline du crack.
Les précisions de Caroline Baudry. Merci Caroline.
Le sport sur Europe 1 avec le foot et 8e journée de Ligue 1. Le début de saison cauchemardesque de Saint-Etienne continue. Les Verts giflés chez eux par Nice.
Défaite 3-0 de Saint-Etienne. On va tout de suite rejoindre le stade Geoffroy Guichard où Anthony Perel a suivi le match pour Europe 1. Anthony, après 8 matchs, Saint-Etienne est maintenant lanterne rouge.
Oui, la belle opération est pour Nice et la crise pour Saint-Etienne après 2 matchs sans succès. Ce sont les Aiglons qui ont renoué avec la victoire cet après-midi en venant s'imposer dans le chaudron de 2-0. Auteur d'un début de match canon, les Niçois ont logiquement été récompensés au quart d'heure de jeu, même si le but est plein de réussite puisque le coup franc d'Amin Mouiri, pas spécialement bien frappé, est contré par le capitaine des Verts Madi Camara qui dévie dans ses propres filets. Heureux les Niçois sur ce coup et pas vernis les Verts, mais c'est aussi le symbole d'une 19e place. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Après ce premier but en première période, Nice aurait déjà pu faire le break à plusieurs reprises et la SS a pu remercier son jeune portier Stéphane Bagic qui a maintenu Saint-Etienne dans le match. Les Verts ont eu quelques cartouches pour revenir, mais la machine est enrayée et Saint-Etienne est incapable de concrétiser ses actions. Et les Verts vont finalement être plombés par celui qui les avait sauvés en première mi-temps. Quelques minutes après le retour des vestiaires, le jeune gardien Stéphane Bagic rate son dégagement et Nice s'en va doubler la mise par Calvin Stengs 2-0. Le break est fait. Les Stéphanois sont sonnés et ne reviendront pas. Andy Delors va même corser l'addition dans les dernières minutes. Score final 3-0. Au classement, Nice monte provisoirement sur le podium. La SS, qui boucle une 5e défaite de suite en Ligue 1, devient lanterne rouge du championnat.
Merci Anthony Perel au stade de Geoffroy Guichard. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir.
La crise à Saint-Etienne, mais aussi le PSG, Lille, on va en parler dans Eurosport Soir.
Exactement, à partir de 20h ce soir, on va déjà suivre 3 rencontres puisque vient de démarrer à 19h un match entre Strasbourg et Lille, toujours 0-0 pour l'instant. On suivra la 2e mi-temps dans notre émission et puis à partir de 21h, 2 matchs en intégralité avec Lyon face à Lorient et le Paris Saint-Germain face à Montpellier en étant très attentif aux éventuels mouvements de foot. Vous le savez, en ce moment on est sur le qui-vive avec les mouvements de supporters. Et puis, le samedi, on parle beaucoup de foot étranger dans notre émission. L'Angleterre notamment avec City, futur adversaire du Paris Saint-Germain, mardi en Ligue des Champions. Ce sera une soirée exceptionnelle sur Europe 1. City qui a battu Chelsea, juste le tenant du titre de la Ligue des Champions en championnat sur le score de 1-0. Donc City, l'adversaire du PSG, très en forme. On se penchera aussi, puisque le Real Madrid joue contre Villarreal ce soir, sur le cas de Benzema. Les médias espagnols le voient déjà ballon d'or parce qu'il a fait un début de saison tonitruant.
Bon. Mais merci Lionel Rousseau.
On vous retrouve. Et puis alors, attends, moi j'ai quand même une prouesse en Formule 1. C'est quand même 21 ans, pilote McLaren. C'est qui ? C'est Lando Norris quand même, britannique, qui décroche sa première pole position au terme des qualifs du Grand Prix de Russie devant l'Espagnol Carlos Sainz Jr. Évidemment, il y a eu un précédent sur Ferrari. Et la deuxième ligne sera pour les Britanniques George Russell sur Williams et Lewis Hamilton sur Mercedes. Voilà.
C'est bien. Avec vous, on est toujours complet.
Non, mais voilà, merci, je ne peux pas m'empêcher d'aimer la Formule 1. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Merci, les amis. On passe à la météo. Ma chère Valérie Darmon, prudence pour. Oui, d'abord, Valérie Darmon.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien ? Les Seychelles vous présentent la météo.
Valérie Darmon, je disais prudence puisqu'il y a les alertes oranges aux orages sur le sud de la France.
Effectivement, je vous vois venir, vous avez envie de soleil et vous avez raison. On a 4 départements en alerte orange, forte pluie et orage, Hérault, Gard, Ardèche, Drôme, à partir de ce soir jusqu'à demain matin. Les orages qui se généralisent aux confins du Languedoc jusqu'au littoral de l'Hérault ainsi que sur les départements Cévenoles. Ils remontent vers la Haute-Loire, la nuit qui s'annonce très très pluvieuse sur ce secteur avec des cumuls compris entre 50 et 60 mm, localement 70 pendant la nuit. Demain matin, les pluies soutenues, parfois très fortes, vont concerner le couloir rhodanien depuis la basse vallée du Rhône jusqu'au Lyonnais et le sud de la Franche-Comté. Des orages qui gagnent également la Côte d'Azur rapidement jusqu'aux Alpes-Maritimes et ce front pluvio-orageux qui s'éloignera en soirée de demain sur l'Italie.
Merci Valérie Darmon. Dans une poignée de secondes, Arnaud Montebourg et ses propositions. Elle veut couper court avec les vieilles idées de la gauche ou de la droite d'ailleurs. Et puis, dans la dernière demi-heure, faut-il arrêter d'envoyer des soldats français en OPEX? Le caporal-chef Maxime Blasco, mort sous les balles des terroristes au Mali. N'est-ce pas le mort de trop? N'est-ce pas le moment de tout arrêter? A tout de suite sur Europe 1.